Bonne feuille. 40 romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, entre les deux, il n'y a rien. De Mathieu Riboulet.
Première ligne de la Chartreuse de Parme de Stendhal pour la présence de l'histoire dans le texte. Milan en 1796. Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Les miracles de bravoure et de génie dont l'Italie fut témoin en quelques mois réveillèrent un peuple endormi. 8 jours encore avant l'arrivée des Français, les Milanais ne voyaient en eux qu'un ramassis de brigands, habitués à fuir toujours devant les troupes de Sa Majesté impériale et royale. C'était du moins ce que leur répétait 3 fois la semaine un petit journal grand comme la main, imprimé sur du papier sale. Donc le premier paragraphe de La Chartreuse de Parme de Stendhal, comme je disais, pour la présence de l'histoire dans le texte et la façon dont elle se lie à la fiction qui va se mettre en place après. Et aussi, tout simplement, j'allais dire, parce que la lecture de Stendhal a pour moi été très importante et que j'ai eu l'occasion de relire La Chartreuse de Parme il n'y a vraiment pas longtemps et de retrouver intact et même renouvelé le plaisir que j'avais eu à le lire une première fois il y a assez longtemps. Et à me retrouver dans une écriture incroyablement libre et fluide et conquérante presque. Voilà. Donc c'est toujours Stendhal pour moi c'est une espèce de modèle dans l'écriture du français au 19e siècle qui est pas dépassable quoi. J'avais l'impression, en tout cas adolescent, qu'il y avait presque de la difficulté dans ce livre-là, alors qu'il n'y en avait aucune dans Le Rouge et le Noir. Et ça m'est apparu très nettement à la relecture. J'ai compris pourquoi j'avais buté là-dessus. Et en fait, plus le temps passe, plus je le comprends. Et je peux aussi préciser d'une certaine manière que Pierre Bergougnoux a écrit un très beau texte sur Faulkner où dans l'ouverture du texte, il est pour expliquer l'importance de Faulkner et de son arrivée dans le paysage littéraire, il revient sur Stendhal, sur justement le début de La Chartreuse de Parme, et où il dit que en fait Stendhal a frôlé le point où est arrivé Faulkner quelques années plus tard et qu'il s'en est presque retiré après cette ouverture de La Chartreuse pour reprendre un fil romanesque beaucoup plus traditionnel, disons, mais que dans cette ouverture de La Chartreuse, il y a une espèce de vacillement, il y a une espèce d'obscurité complète pour le personnage et donc pour le lecteur. De la présence de l'histoire et du fait qu'on ne sait pas comment s'y diriger quand on est impliqué dedans.
Alors la présence de l'histoire, on va l'entendre tout de suite, Mathieu Riboulet, avec la lecture des premières pages d'Entre les deux, il n'y a rien, que vous faites paraître aux éditions Verdier.
Premier chapitre, Nous ne voulons pas vivre comme en Pologne, 1972. Nous avons pris le train en marche, moi comme les autres. En 1972, en ce qui me concerne, pour autant que je puisse en juger maintenant, entre l'assassinat de Pierre Auvernet et un voyage en Pologne que je fis avec mes parents, qui s'acheva sur les événements des Jeux Olympiques de Munich. Et j'en suis probablement descendu au début des années 90, à l'orée des massacres yougoslaves. On ne peut pas toujours suivre le temps du monde. J'inscris ici ces éléments d'une chronologie personnelle, je les borne avec les dates de la chronologie historique, dont nous convenons tous peu ou prou qu'elles reflètent un certain déroulement des faits, un ordre du monde autour duquel nous tentons d'organiser un peu de pensée. Mais ces chronologies, bien sûr, sont des fictions. Car ça commence toujours avant et il finit toujours par manquer quelque chose. Ça sort du brouillard vers 1871, ça quitte les livres, ça s'inscrit dans les corps hérités, ça vient à la conscience, ça travaille, et puis ça reflue et ça part, et ce qui sera prolongé ou pas de notre histoire, nous ne le saurons jamais. C'est complexe, parfois tordu, souvent emberlificoté, mais quel que soit le fil que je tire, toute la pelote européenne vient. Je suis fait de ça, c'est en moi que l'histoire prend corps, c'est de mon corps qu'elle prend possession. C'est ainsi que nous mourons parfois dans la rue comme des chiens alors que la paix règne, Benno Ohnesorg, 27 ans. Quand nous mourons dans l'opacité africaine, sur des rafiaux birmans croisant en mer de Chine ou dans l'enfer glacé de Magadan, nous ne mourons pas hommes comme des chiens, nous sommes des chiens et comme tels nous mourons. Mais quand nous mourons là où l'esprit occidental a placé son centre de gravité et dicte son temps au monde, nous mourons comme des chiens parce que nous sommes des hommes et que les hommes ne meurent pas dans la rue abattus comme des chiens mais dans leur lit, paumes ouvertes. Les heures ne sont pas les mêmes pour tout le monde, la chronologie est une fiction. Une balle tirée à bout portant en pleine rue. Avant 1871, l'histoire est pour moi celle des livres, romans, épopées, récits, Roncevaux, Michelet, Lafronde, Chateaubriand, 89, Stendhal. En 1871, ça quitte les livres et ça vient s'écrire dans le corps de mon arrière-grand-mère qui, me tenant sur ses genoux 94 ans plus tard, imprime en moi le souffle qu'elle a pris au sortir de Sedan et du massacre des communards. Ce n'est plus la fiction racontée dans les livres pour éclairer l'esprit, c'est celle qui sort de mes entrailles au plus fort des nausées, c'est le bonnet de laine noire de l'aïeul, ses mitaines, son crochet, ses bobines de coton, le panier à ouvrage et la soupe qui frémit, l'étroite maison jetée au creux du pays perdu où rien n'est advenu que le travail, la vie patiente, au loin le grondement inquiétant de l'histoire, et devant soi le chemin creux et souvent dur jusqu'à la mort. Si longue à venir parfois qu'on se croit oublié et qu'on frémit à l'idée de devoir durer. Durer pourquoi et pourquoi pas mourir plus tôt? Pourquoi encore des jours et encore des travaux quand tant meurt dans les rues? Benno Ohnesorg, comme un chien, le 2 juin 1967. Ça quitte les livres et ça vient dans le corps et pour avoir la paix, il faut que de nouveau ça parte dans les livres, c'est pour ça qu'on écrit. Il faudrait que ça quitte le corps, on aimerait l'avoir un peu vide, pouvoir y mettre ce qu'on aime, ce qu'on désire, y être chez soi avant de le laisser, ça va venir si vite. Nos larmes, où seront-elles quand nos os pourriront? Être dans nos corps comme chez nous et pouvoir dire « c'est à Dieu que je le donne, à la révolution, à l'amour, au sexe, à la drogue, à la pensée ». On reste longtemps sans pouvoir parce qu'on trouve un terrain jonché de saloperies. Les impayés des aïeux, les impensés de l'histoire, les embûches de la maladie, l'ombre des morts. Et pendant des années, on s'immobilise en panse, on prêche, on cherche, serre les dents, fond en larmes, au lieu d'ouvrir, courir, jouir, faire jouir, vaciller. Fauchés comme des chiens avant d'avoir la paix. Là où l'orgueil occidental pense que les choses s'ordonnent, nous sommes tranquilles depuis le 8 mai 1945, après 31 ans de guerre et des millions de morts, dont on se demande bien où sont passés les corps. D'une balle tirée à bout portant par un représentant en civil des forces de police de la République fédérale d'Allemagne. Nous cherchons à penser comme des hommes, mais il arrive encore qu'on nous abatte comme des chiens, parce que parmi les hommes, il s'en trouve toujours qui se sentent supérieurs aux chiens. En 1972, j'ai 12 ans, je sens tout sans rien comprendre, je sens et je vois tout, mais tout me manque et je ne vois rien. Alors ce qui est grave se grave au plus profond et désormais je sais que là-bas, dans l'enfance, tout s'est joué. L'écriture, la politique, l'histoire, le sexe et la parole donnée au corps parce que l'âme est inerte, sidérée par l'ampleur du désastre, par la faiblesse des moyens, noyée dans l'émotion. Je sais que tout est inutile et pourtant je ne meurs pas, je n'ai pas l'âge pour ça et la paix règne en maître. Partout, les hommes meurent comme des chiens, je n'en sais rien encore, mais le 25 février de cette année-là, dans le pays en paix, un homme à 3 stations d'autobus de chez moi, à bout portant, comme un chien, sa mort entre dans la maison, portée par les amis, les voisins, la conscience qu'on avait de former un ensemble, moi, quantité négligeable, et à mes pieds, ou presque, Pierre Auvernet, 23 ans, abattu par un représentant en civil des forces de gardiennage privé de la Régie Renault. En 1978, je vais en Italie, j'ai 18 ans, c'est à un jet de pierre de 1972, mais désormais je sais que l'écriture, la politique, l'histoire, le sexe, c'est pour moi, c'est à moi, c'est mon affaire, mon tour, je veux courir, ouvrir, peut-être vaciller, surtout jouir et faire jouir. La politique, ce ne sera sans doute pas la révolution que mes aînés ont tenté de porter haut, parce que l'heure est passée. La révolution, ce sera le sexe, ce sera jouir et faire jouir les hommes sans demander mon reste. J'ai 3 ans devant moi, nous avons 3 ans devant nous. Dans 3 ans, nous serons fauchés comme des chiens par une épidémie, l'ennemi aura changé de visage. Et pour l'instant, à Rome, à bout portant, dans un garage, abattu comme un chien, Aldo Moro, 62 ans, par les hommes des Brigades Rouges en uniforme des forces révolutionnaires, et moi, à 800 mètres de là, le 9 mai 1978, dans un parc adossé à un pin, je m'agenouille au pied de Massimo, qui est dur et broussailleux, il se plante dans ma bouche, et Pasolini, 53 ans, à 3000 jours et 30 kilomètres d'ici, roué de coups comme un chien, peut-être même avant d'avoir pu s'incliner devant son ou ses assassins, partout, les côtes des chiens offertes aux coups de pied des valets. Le monde était dans cet ordre-là quand nous l'avons trouvé, mais nous n'avons rien su faire malgré ce qui secouait nos corps depuis plus de 100 ans et malgré ces aînés qu'on aurait bien suivis mais qui tournaient en rond. Walter Alasia, 20 ans, comme un chien, par un représentant en uniforme des forces de police de la République italienne le 15 décembre 1976 dans une rue de Sesto San Giovanni. En 1972, j'ai 12 ans et nous partons en Pologne en voiture. Qu'est-ce que vous allez foutre en Pologne? Quelle idée, entendent d'un peu partout mes parents quand ils partent, avec moi sur la banquette arrière, dévoré de curiosité à l'idée de passer des frontières et d'aller voir là-bas comment ça marche, puisque c'est différent, paraît-il, ce dont mes parents doutent. Berlin d'abord, ouest et est, là où Benno Honeysorg, 5 ans avant. Puis Stettin, Danzig, Bialystok, Varsovie, Cracovie, Oswiecim, là où 28 ans avant. Prague, Passau, Munich, là où dans quelques heures, 11 athlètes israéliens et les 8 membres du commando palestinien qui les ont pris en otage seront assassinés comme des chiens sur le tarmac de l'aéroport de Fürstenfeldbruck, les uns par les Palestiniens, les autres par la police allemande, semble-t-il, si tant est qu'on puisse s'y retrouver dans les tirs croisés d'une boucherie pareille. Tour Paris. Je raconterai ça et comment ça résonne dans une tête de 12 ans qui n'a encore rien porté à sa bouche dont elle éprouve déjà un désir desséchant. La brutalité attentive de la queue de Massimo 6 ans plus tard sur le versant sud solaire du continent où l'on meurt comme des chiens plus que partout ailleurs, pire même dans la tiédeur de l'air. Cette facilité qu'on a à passer de l'enfance stupide, ignorante d'elle-même, à l'âge où le désir dévaste, met à genoux le peu de temps que ça prend. Et les parents, ont-ils seulement dans leur tête le nécessaire pour faire tenir dans l'axe de leur vie le bambin qui gambade et le gamin qui suce, qu'un souffle d'air sépare? Je dirai ça aussi, j'essaierai, tout ce que ça contient de révolutionnaire, de religieux, d'amoureux, de politique, sucer des bites. Même si plus personne ne le voit, même si chacun feint de penser que c'est trop dégoûtant, que ce sont là vieille lune, ringardise, impasse, errement, pornographie. C'est la délicate question du rapport entre récit et roman telle qu'elle est entendue maintenant. C'est assez vaste et je pense qu'il faudrait évidemment préciser parce que dans l'acception commune, on pense que récit est effectivement quelque chose à dimension autobiographique, qui va du côté de l'autofiction, et roman, on pense que une chose fictionnelle s'élabore dans la tête de l'écrivain. Il se trouve que pour un certain nombre d'écrivains dont je suis, cette frontière-là est extrêmement floue et que on essaye bien sûr de construire des récits à la première personne, parce que de toute façon, écrire un livre, c'est toujours mener un récit à bien, qu'il soit autobiographique ou pas. Et donc, on travaille avec notre matière, notre autobiographie, mais on est aussi des lecteurs, on est aussi des écrivains, on sait aussi l'importance de la fiction, et donc on essaye de mêler les deux de façon à composer un ensemble qui est assez, comment dire, un petit peu atypique, qui, en tout cas pour nous, pour moi, au moment où on l'écrit. Moi, je sais très bien dans ce livre-là ce qui est la part de la fiction, de l'invention, disons, et ce qui est la part de l'autobiographie. Tout ça est extrêmement mélangé et en même temps, ça me permet d'affirmer que tout est vrai et qu'en même temps, rien ne l'est. Parce que je pense qu'on arrive exactement au même résultat. Simplement, il se trouve que pour ce livre-là, ce qui m'importait vraiment, parce que je pense que si je n'avais pas employé le jeu, si je ne m'étais pas d'une certaine manière vraiment placé au centre du récit, j'aurais eu l'impression de tricher d'une certaine manière, c'est-à-dire d'utiliser des artifices fictionnels qui m'auraient mis complètement à distance. Et alors, c'est un travail très honorable, hein, je ne porte pas de jugement là-dessus, simplement, ça n'était pas le travail que je voulais effectuer, simplement parce que c'est un projet autour duquel je tourne depuis des années et des années, en fait, parce qu'il m'importe beaucoup, depuis tout ce temps-là, de d'écrire sur cette période et d'une certaine manière de lui rendre une justice dont je pense qu'elle ne lui a pas été rendue, en tout cas, me semble-t-il, pas encore dans la littérature, quoi.
Vous publiez dans les jours à venir un deuxième livre, exactement en même temps, Mathieu Riboulet, qui s'intitule « Lisière du corps », toujours aux éditions Verdier. Vous écrivez plusieurs textes en même temps.
Non, les deux textes sont sur à la fois des rythmes, des contenus et des temporalités de rédaction extrêmement différentes. Il se trouve que pour des raisons techniques pas très intéressantes, j'avais terminé entre les deux Il n'y a rien depuis déjà un bon moment, mais que je savais que la parution serait assez lointaine. Et donc, d'une certaine manière, pour... combler cette espèce d'attente qui est toujours un moment un petit peu bizarre quand on a fini un texte, qu'on sait qu'il va être publié, mais que la publication est un peu lointaine, il y a une sorte d'entre-deux qui s'ouvre, en tout cas pour moi, je ne veux pas en faire une règle bien sûr, qui est un peu étrange, quoi. Et donc, je ne me sentais pas de repartir sur un projet, disons, de longue haleine. Et en même temps, je trottais dans ma tête depuis longtemps des petits bouts des amorces de fiction ou des personnages dont j'avais envie de parler, dont je me doutais qu'ils ne feraient sans doute pas l'objet d'un livre entier. Bon, et donc j'ai commencé comme ça à écrire un premier portrait, un deuxième, j'appelle ça des portraits parce que vraiment pour moi c'est une succession de six portraits. Et au bout du deuxième, je me suis dit, j'ai compris que je pourrais sans doute organiser comme ça une sorte de parcours, du regard, là, pour le coup, à travers cette succession de six portraits de garçons et d'hommes dans des situations et des exercices très différents les uns des autres.
Hello, on va en Birmanie, au diable. On a tout ce qu'il faut en fait de whisky, merci. Et nos cigares, c'est des Havana. Et les filles, on n'en veut plus, c'est superflu. Désormais, la liberté, elle est à nous. Désormais, la liberté est à nous. On a juste de cigares pour jusqu'à Burma. Le raffiant n'aura plus de quoi fumer après Burma. Et votre cher bon Dieu, on s'en passe très bien. La morale, c'est pareil, on s'en lasse. On vous dit goodbye et ça vogue par-ci et ça mouille par-là. Et le cher bon Dieu, y en a pas trace. Et le cher bon Dieu, peut-être qu'il s'en fiche, ma foi. Et sinon, faudra bien qu'il s'y fasse. On vous dit goodbye, les bonnes paroles, les exhortations, les consolations, y en a marre. Être aimable, non, non, pas pour un million, que coule le monde, on s'en fout. Oui, la mer est bleue, si bleue, et tout se passe gentiment.
Alors j'ai choisi le Tango des matelots de Bertolt Brecht et Kurt Weill dans une interprétation de Pia Colombo dans un récital au TNP. Simplement parce que, en fait, ça a été une musique très importante au moment où je commençais à réfléchir très sérieusement à l'écriture de Entre les deux, il n'y a rien. Mais c'est pas du tout une musique qui m'a accompagné pendant que j'écrivais, parce que pendant que j'écris, j'écoute pas de musique, ou rarement. Mais en revanche, toute la période où j'ai cherché justement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire quelle place exactement occuper dans ce récit pour pouvoir le mener à bien comme je l'entendais, j'ai essayé diverses choses et Brecht était très présent à mon esprit, d'abord parce que simplement c'est une musique et des chansons que j'ai découvertes à cette époque-là, quand j'étais adolescent et dans les années 70, qui m'ont ouvert à Bah, au théâtre de Brecht, je pense, ça m'a tout de suite fasciné, ça m'a tout de suite ouvert des horizons très, très mystérieux à l'époque, évidemment, un petit peu plus clair maintenant. Et donc, je suis assez naturellement revenu vers ce répertoire-là, disons, au moment où je préparais, parce que je me disais, voilà, dans le travail de Brecht, dans ses chansons, dans l'espèce de violence un peu désabusée comme ça qu'il y a très souvent chez les personnages, de fatalisme, il y a quelque chose qui est de l'ordre de ce que je veux essayer de saisir, et donc ça va peut-être m'aider. Voilà, donc c'est ces choses très bizarres qui concourent à la construction d'un travail, quoi.
Les consolations, y en a marre. Être aimable, non non, pas pour un million. Que coule le monde, on s'en fout.
C'était Mathieu Riboulet, qui présentait son récit « Entre les deux, il n'y a rien », à paraître aux éditions Verdier.
En virage, on n'en voit pas la fin.
Les Bonnes Feuilles, Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Somanina, Jean Frédérics.
Oui, la mer est bleue, c'est bleu. Oui, la mer est bleue. Oui, la mer est bleue, c'est bleu. La mer est bleue. Une tempête maintenant, manquait plus que ça. Eh bien, on est en Birmanie, voilà les docks. Mais non, ce mur-là, c'est rien qu'un nuage noir. Oh mon vieux, c'est...